Radio Classique, les spécialistes.
Les deux spécialistes du jour, Bernard Sananès du cabinet Elab, qui aura la parole dans un instant. Bonjour Bernard, bonjour à vous. Alexis Karklins du cabinet Aita Advisory, et bonne année à vous. Après vos problèmes de Covid, hein, car vous y êtes passé vous aussi. Alors écoutez, vous êtes l'un des très bons spécialistes disponibles de l'Amérique du Nord, en tout cas des États-Unis. Voilà, ça fait 4 ans que Monsieur Trump nous dit blanc, puis le lendemain gris, puis le troisième jour noir. Là, cette nuit, là, il a viré de bord, il a dit « Je condamne toutes les violences du Capitole », après les avoir attisées hein, soigneusement pendant des heures et des heures, et « J'en appelle à une transition paisible et à une réunification du peuple américain », etc., etc. Il n'y a pas de surprise de ce côté-là, mais ce qui est intéressant... Enfin, peut-être si, surprise si, bah, pour vous, quand même
bah, ce message qu'il a posté cette nuit, cette vidéo, qui était une vidéo a priori scriptée, où il parle de façon très calme, très posée, où il explique effectivement ce qui s'est passé. Il rationalise presque a posteriori les recours judiciaires qu'il a fait. Oui. Il accepte sa défaite, puisqu'il reconnaît qu'une administration nouvelle va entrer à la Maison-Blanche dans quelques jours, le 20 janvier.
Enfin, il ne l'a pas encore dit comme ça. Il n'a pas dit « Je reconnais Joe Biden comme étant le 46e président ».
Il dit « Une nouvelle administration ». Vous savez, on se contente de peu avec tout ce qu'on a entendu. Avec le président sortant, on prend ce que l'on peut prendre. Et en l'occurrence, pour la première fois, il dit « Une nouvelle administration ». Entrera à la Maison-Blanche, s'occupera des affaires de l'Amérique le 20 janvier. Je vous rappelle qu'il y a 2 jours, avant l'envahissement du Capitole, il tenait un discours qui était radicalement différent, puisque dans l'après-midi, il parle de « nous n'accepterons jamais cette défaite, nous allons rester au pouvoir et il faut marcher sur le Capitole ». Voilà. Donc il s'est passé, j'allais dire, c'est pas une surprise, un peu quand même, parce qu'on ne savait plus à quoi s'en tenir. Je pense qu'il a peur. Je pense qu'il voit que ses secrétaires sont en train, ses ministres sont en train
deux de... Ministres de l'ont lâché deux ministres,
secrétaire à l'éducation et secrétaire au commerce, l'ont lâché en 24 heures. Plusieurs membres, plusieurs staffs de la Maison-Blanche ont quitté la Maison-Blanche pour annoncer leur démission. Alors vous me direz, c'est un peu facile, Bernard.
Voilà, à deux semaines de la fin.
Donc il y a un petit côté sans doute un peu hypocrite, mais... Objectivement, les images du Capitole ont choqué beaucoup d'Américains, y compris beaucoup de Républicains.
Alors, les démocrates, tous et pas mal de Républicains, disent qu'il faut envisager, pourquoi pas, de remplacer Trump pour les 2 prochaines semaines. C'est possible. L'article 4 du 25e amendement précise que Mike Pence, le vice-président, qui s'est très bien comporté dans cette affaire, peut très bien dire « Je considère et nous considérons, je demande au Congrès de considérer avec moi que le président est empêché. » C'est-à-dire, en gros, il est devenu fou, quoi.
C'est ça. Alors, en fait, il y a 2 procédures. Il y a celle que vous citez, qui est le 4e paragraphe, la 4e section du 25e amendement. Mais pour cela... Il faudrait que ça revienne ensuite au Congrès, il faudrait avoir une majorité d'administration. Objectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça fait peur, ça peut faire peur, ça a pu faire peur à Trump. Mais ça n'a jamais utilisé dans l'histoire. Quant à la procédure d'impeachment, le temps n'est pas là non plus. Donc de toute façon, c'est plus une forme de menace. Mais quand même, ça restera. Encore une fois, il y a les images qui ont évidemment choqué le monde entier. Le symbole était d'une force incroyable. On a parlé de putsch, non, puisque ce ne sont pas des militaires, mais on a parlé de coup d'État. C'était une émeute, c'était une forme d'insurrection, mais en tout cas, la symbolique est tellement forte qu'il y aura des conséquences.
Judiciaires pour Trump après le 20 janvier?
Potentiellement. Alors, il y a déjà
eu deux morts quand même, manifestante et un policier.
Absolument. Et d'ailleurs, le décès du policier est quelque chose qui choque aussi beaucoup l'Amérique. Et notamment dans le camp républicain. Donc oui, il peut y avoir des suites judiciaires. De toute façon, il y a d'autres aspects judiciaires qui peuvent attendre Trump, notamment sur cette affaire fiscale. Donc, et aussi des affaires de harcèlement. Donc, oui, les jours qui viennent, en tout cas après le 20 janvier pour Donald Trump seront des jours probablement assez agités.
Donc très probablement, malgré ses 75 millions d'électeurs, son avenir politique est terminé à M. Trump, parce qu'il avait laissé entendre qu'il se représenterait dans 4 ans, hein, on est bien d'accord. Mais pour le parti républicain, l'important.
Vous posez évidemment une question essentielle.
C'est
une question essentielle. Alors d'abord, la dernière phrase de cette intervention, de cette vidéo de Donald Trump, il ne ferme pas la porte en disant c'est juste le début d'une aventure. Voilà, c'est le début d'une aventure. Bon, dans 4 ans, attention, il sera plus âgé que Joe Biden aujourd'hui. Donc, il y a quand même aussi le poids de l'âge qui peut jouer, et puis au-delà des affaires. Mais effectivement, le vrai sujet, c'est quel avenir pour le Parti républicain. Il y avait un sondage, YouGov, donc l'institut de sondage que Bernard connaît bien, Bernard Sananès connaît bien, qui a été publié sur ce que pensent les Américains de l'envahissement du Capitole. Et je crois que la fracture du Parti républicain est inscrite dans ce sondage, puisque si une immense majorité des Américains est choquée et condamne ce qui s'est passé. Chez les Républicains, vous avez environ 50% des Républicains qui disent, 45% des Républicains
que
qui
c'était
disent
légitime.
Que ils comprennent et que c'était d'une certaine façon légitime, et 45% qui disent qu'ils sont choqués. Et donc, il y a une vraie scission qui est en train de se créer dans ce parti. Vous avez un parti qui sera pro-Trump, à voir si ça continue. À voir, ça continue, parce que, justement, aujourd'hui, et depuis 48 heures, on voit à quel point l'étoile du Trumpisme est quand même en train de pâlir. Et puis, à côté de ça, vous avez des Républicains qui ont été impeccables, et qui, tout de suite, ont dit,
mais
c'est
Mitch
absolument scandaleux.
McConnell, hein,
alors, Mitch McConnell a fait.
Le patron des Républicains.
Absent, absolument, le patron des Républicains au Sénat, qui a fait un discours, très juste et très ferme sur la démocratie. Mike Pence, vous l'avez rappelé, le vice-président, qui a été vraiment impeccable depuis 48 heures. Ouais. Et puis, un certain nombre d'élus républicains qui ont dit, c'est scandaleux. Et qui accuse directement le président Trump.
Une dernière question, Alexis Karklins. Le 20 janvier, ça va ressembler à quoi ? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, dans deux semaines ?
Alors, qui
déjà,
sera
il aura
présent ?
Il n'y aura pas un million de personnes dans la rue à cause du Covid. Alors, mais il sera là, Trump, ou alors, il va jouer au golf en Écosse, comme on
alors,
dit ?
Alors, en Écosse, ça a l'air difficile, puisque la première ministre d'Écosse, Nicola Sturgeon, on ne sait pas pour Trump. Mike Pence a a priori annoncé, en tout cas son équipe a annoncé qu'il serait présent pour assurer la transition du pouvoir. On verra pour Trump. Ce qui est certain, c'est que cette journée sera particulière et notamment placée sous le signe de l'extrême sécurité. Parce que les scènes du 6 janvier étaient terribles, et vous savez que le système de sécurité a été remis en cause. Objectivement, je pense que beaucoup de gens ont peur, compte tenu des images, enfin sur la base des images que l'on a
vues. Il peut y avoir un cinglé qui va allumer Biden.
Qui va allumer Biden ou son équipe.
Bien
donc
sûr.
On peut s'attendre à ce qu'il y ait vraiment un état d'urgence. L'état d'urgence est prolongé jusqu'au 20 janvier à Washington DC, et donc ça sera dans des conditions de sécurité très très drastiques.
Merci beaucoup Alexis Karklins du cabinet Eight Advisory, donc qui parle si bien de l'Amérique qu'il connaît si bien. Je me tourne vers Bernard Sananès, le patron du cabinet Elab, qui réalise régulièrement pour Radio Classique et Les Échos, une double enquête. Une enquête sur l'opinion politique en France et sur le sentiment économique. Alors, sur le plan politique, très brièvement, parlons-en tout de même. Sur un mois, Macron gagne 3 points de confiance, ok, et Castex stoppe la chute, parce que là, il partait dans les abysses, le Premier ministre. Ça vous a surpris en voyant ça ? Parce que c'est quand même la confusion totale, encore une fois, avec l'histoire de la vaccination, etc. Bon, voilà. Donc, ça vous surprend ?
On peut dire, ça peut sembler en première lecture un peu contre-intuitif, comme on dit, mais on peut l'expliquer. Il faut l'expliquer en voyant que la cote de confiance d'Emmanuel Macron, depuis le mois de septembre, finalement, elle ne fait qu'osciller entre 32 et 35%. C'est-à-dire qu'il y a un tiers des Français qui lui font confiance.
Qui lui font bien confiance.
Deux tiers qui ne lui font pas confiance. Ça veut dire que son
socle... Il peut être
content
par rapport à Hollande, mais enfin, c'est pas terrible.
C'est plus que Hollande, c'est même légèrement plus que Sarkozy, mais c'est quand même un tiers confiance, alors que nous sommes en crise.
Et deux tiers, non.
Deux tiers pas confiance, premier point. Deuxième point, c'est vrai, ça veut dire aussi que finalement, il n'y a pas beaucoup d'impact sur l'actualité, comme si les choses étaient un peu figées. Ceux qui soutiennent Macron, je ne vais pas dire vont le soutenir jusqu'au bout, mais en tout cas, ils sont là, et il y a très peu de variations. Et ceux qui sont opposés à Macron, j'allais dire, sont encore renforcés dans leur conviction. Mais troisième point, et là je vous rejoins, c'est vrai que pour l'instant, après cette enquête qui a été réalisée mardi et mercredi matin, on peut dire qu'à date, il n'y a pas eu encore, ou pas du tout, d'impact de la polémique que l'on a dite, polémique sur les vaccins. Pourquoi ? Comment on peut essayer d'expliquer pour l'instant ? On verra dans un mois, évidemment. Mmh. Une partie d'opinion peut se dire c'est trop tôt pour juger. Mmh. On verra dans un mois ce qui se passe, on verra si la campagne a pris son rythme. Première explication. La deuxième, c'est que finalement, l'opération JDD, peut-être qu'elle a fonctionné sur une partie de l'opinion et sur une partie du socle électoral de Macron. D'ailleurs, quand on regarde dans le reste du baromètre, on voit que chez les sympathisants d'En Marche, tous les ministres sont en forte baisse. Donc peut-être que chez les soutiens de Macron, on se dit finalement, le chef, il a raison, lui, il fait le boulot et c'est les autres qui ne le font pas. C'est une deuxième piste d'explication. Et puis troisièmement, et je crois plus à celle-là, je pense qu'il y a un effet de double relativisation dans l'opinion. Je m'explique. Relativisation par rapport aux autres pays. On voit dans d'autres enquêtes que les Français se disent « Ok, la Chine et l'Allemagne font un peu mieux, mais l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre ne font pas mieux. » Et relativisation aussi vis-à-vis des oppositions dont on n'arrive pas à penser pour l'instant qu'elles feraient mieux.
Alors, signalons en bref, mais on ne va pas gloser là-dessus, que Édouard Philippe, Nicolas Hulot et Roselyne Bachelot sont toujours les chouchous des Français. Donc deux pré-retraités et une ministre qui ne peut rien faire parce que tout est fermé. Alors parlons de l'économie, si vous l'aurez bien, Bernard Sananès. Les Français attaquent 2021 avec deux sentiments majeurs, inquiétude et lassitude. Et deux sur trois considère qu'on a une crise économique XXL qui est là, devant nous, dès le printemps.
Tout à fait. J'aurais aimé vous amener d'autres nouvelles en ce début d'année.
Rien, hein,
mais s'il y a un mot qui peut résumer l'état d'esprit et le moral des Français, c'est qu'il est, il est plombé par l'absence de perspective, alors qu'on se disait l'arrivée du vaccin va permettre de retrouver l'espoir. L'espoir, c'était d'ailleurs le thème de l'allocution d'Emmanuel Macron. Et donc oui, effectivement, il y a cette inquiétude, il y a cette lassitude, et il y a même chez 3 Français sur 10 de la colère. Il faut être vigilant, parce que cela peut vouloir dire qu'en sortie de crise, on peut avoir effectivement des préoccupations fortes, notamment sociales. Et puis, il faut rappeler sur cette inquiétude et ce sentiment que la crise va arriver, l'inquiétude, elle est très forte depuis le début. Finalement, les Français ont mis au même niveau, on ne le dit pas toujours, la crise sanitaire et la crise économique. L'hypothèse d'une troisième vague fait monter aujourd'hui cette inquiétude. C'est le chiffre que vous avez donné. 2/3 des Français se disent « ça va durer, plus la crise sanitaire dure ». Plus la crise économique va être forte. Et puis, dernier point, même si un Français sur deux considère que l'aspect économique de la crise a été bien géré par le gouvernement, c'est beaucoup moins critique que les autres aspects, bien une partie de l'opinion se dit sans doute également, à un moment, les mesures, même si elles ont été bonnes, elles vont ralentir, diminuer, voire s'arrêter. Et donc, l'impact sur l'emploi, sur le pouvoir d'achat, sur l'économie du pays va être fort. Donc, c'est vrai que c'est une donnée importante pour le gouvernement. Par ailleurs, cette donnée et cette inquiétude, ça a aussi un impact sur un autre aspect que les économistes suivent mieux que moi, c'est la consommation des ménages. Quand vous êtes inquiet, vous ne relancez pas évidemment la consommation.
Oui, oui, inquiétude et consommation ne font pas bon ménage, c'est le moins qu'on puisse dire. Bernard Sananès du cabinet Elab, donc cette enquête à retrouver dans Les Échos et sur Radio Classique. Merci d'être venu la commenter.
En partenariat également pour la première avec l'Institut Montaigne.
Absolument, vous avez bien fait de le rajouter Bernard. Je vous souhaite à tous deux, donc Bernard Sananès et le camarade Alexis Karklins, une excellente année. Il est 7h49, dans une minute exactement, les années 80, les années Mitterrand, comme si vous y étiez encore dans le journal imprévisible. Pourquoi ? Parce que, hommage ce vendredi d'Emmanuel Macron au président...